Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode de Hashtags. Et comme d'habitude, je suis avec Stéphane. Salut Stéphane, comment ça va?
Salut Thomas, ça va très bien et toi?
Bah écoute, on fait avec, on fait aller. Les conditions sont un peu particulières, mais bon, j'imagine que c'est un peu la même chose pour tout le monde. Donc globalement, ça va, on va dire.
Ouais.
Quand on a discuté pour le dernier épisode, les conditions étaient quand même vachement différentes pour l'un comme pour l'autre. Là, on est tous les deux à peu près dans les mêmes conditions, cloîtrés à la maison depuis quasiment 3 semaines pour moi, un petit peu moins pour toi, mais je pense que vous, c'est encore un peu plus dur du côté de New York que ça peut l'être à Washington State pour moi.
Bah, disons que de toute façon, vu qu'on sort pas de chez nous, bah, on voit pas vraiment la différence, mais c'est vrai que, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de cas testés à New York qu'ailleurs aux États-Unis, donc forcément, je pense qu'il y a plus un climat de psychose ici qu'ailleurs, mais bon. Il y a aussi plus de tests, donc c'est ce qui peut expliquer le fait qu'il y ait aussi beaucoup plus de cas.
Ouais, et puis c'est a priori c'est qu'un début. On enregistre, on est à la fin du mois de mars. Je pense que dans les semaines à venir, les choses vont. Bon, à mon avis, on n'a pas encore tout vu, mais bon,
ouais.
On va espérer que les choses se passent globalement pour le mieux. Et justement, donc là, c'est segue idéal. On va beaucoup vous parler du coronavirus aujourd'hui. Alors, je pense que c'est quelque chose. J'espère que vous en avez pas marre. On en parle beaucoup pour de bonnes raisons. C'est parce que c'est un peu quelque chose que tout le monde a à l'esprit. Mais nous, on va vous en parler sous le prisme d'un sujet dont on parle quand même beaucoup, qui est la technologie, justement. Le coronavirus à un moment où la technologie est quand même très 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 présente dans nos vies, et en particulier pas uniquement les réseaux sociaux, mais ouais, la technologie et les téléphones en particulier. Donc on va vous faire un petit tour d'horizon rapide de ce qu'on a pu voir et lire sur la question qui nous a intéressé, et en particulier les questions de vie privée et de données, de localisation. Pour commencer, donc il y a eu un article qui date déjà d'il y a quelques jours, hein, et c'est des choses qui évoluent quand même assez rapidement, mais c'est un article qui a été fait par The Verge et qui parle en fait de la tendance des gouvernements à finalement utiliser des données des utilisateurs, pardon, pour avoir une meilleure idée de ce qui se passe au sein de la population et faire en sorte que au moins savoir potentiellement si les gens respectent les consignes données par les gouvernements et potentiellement être un peu proactif et être capable de comprendre quand il y a des écarts ou même pouvoir a posteriori retrouver la liste de toutes les personnes avec lesquelles certains concitoyens sont rentrés en contact quand ils sont testés positifs au coronavirus. En fait, c'est assez intéressant parce que c'est quand même quelque chose qui va complètement à l'encontre de la GDPR, GRPD, comment on dit en français? C'est ça, GRPD?
Je crois, ouais.
La protection générale des données, RGPD, régulation générale de protection des données. Et qui est là pour protéger entre guillemets votre vie privée en tant qu'utilisateur de solutions technologiques. Mais malgré tout, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'endroits, en particulier en Italie, où a priori les données des utilisateurs mobiles ont été utilisées par les autorités pour avoir une idée de qui observe les consignes en fait. Donc là, c'est un peu c'est pas forcément très très, c'est un peu a posteriori et de façon quand même anonymisée, mais histoire d'avoir une idée des gens qui quels sont les gens qui restent en Lombardie et quels sont les gens qui se déplacent, qui continuent à se déplacer en dépit des règles. Et a priori, donc ils ont observé. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui a été rapporté le 23 mars, donc il y a 3 jours. Mais ils expliquaient qu'en fait, on a une chute de 60% des déplacements des personnes qui habitent dans ces régions-là au cours du mois dernier. C'est effectivement ça a un effet, mais c'est quand même pas comme si les gens ne quittaient plus leur maison et ne quittaient plus leurs appartements.
Ouais, et d'ailleurs, l'Union européenne a demandé ça à plusieurs pays, dont la France, et je crois que c'est Orange qui a été désigné en France pour avoir ce type de données. Et ils ont annoncé que 20% des Parisiens avaient quitté Paris. Et donc ça veut pas forcément dire que ces gens n'auraient pas quitté Paris s'il n'y avait pas eu toute cette ce lockdown, mais quand même ça montre que ces données sont vraiment utilisées et qu'elles sont rendues publiques par les opérateurs et l'Union européenne à la presse. Donc c'est assez intéressant.
Et O2 a fait la même chose en Angleterre. L'Angleterre a été un peu, enfin le Royaume-Uni a été un peu long à réagir et a finalement aussi lancé les mêmes dispositions il y a 2 jours, je crois. Mais O2 en Angleterre, qui est un des opérateurs mobiles britanniques, a fait exactement la même chose. Donc, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que finalement ça c'est quand même une utilisation qui est assez acceptable. Et on va augmenter, on va aller crescendo, mais on commence par des choses qui sont assez soft finalement. Je pense que utiliser les données des opérateurs mobiles pour avoir une idée d'un point de vue statistique de ce que fait la population face au lockdown, finalement c'est assez acceptable, et c'est peut-être même une bonne idée ou c'est peut-être même une bonne chose que les autorités aient accès à ce genre d'outils, non?
Je sais pas si c'est le rôle d'un gouvernement d'accéder à ces données, mais pourquoi pas une autre organisation du type, je sais pas moi, l'Institut Pasteur ou des gens qui sont là pour justement faire des statistiques et pas forcément. Je sais pas si c'est le rôle d'un gouvernement de faire cela.
Disons que d'une façon ou d'une autre, ils ont besoin d'avoir accès à cette. Enfin, le gouvernement a quand même besoin d'avoir accès à ces informations-là, quoi.
Donc non, je pense si pas. Vrai, je pense pas que ce soit un besoin. Je pense que c'est une donnée utile, mais de là à dire que c'est un besoin, non, je pense pas. Je pense que ça reste, je sais pas, ça reste des données qui potentiellement dans de mauvaises mains, pourraient être utilisées de façon négative, je pense. Même si c'est anonymisé, je pense pas qu'on doive considérer que ce genre de données, enfin, bien sûr, il y a un contexte de pandémie et tout ça, mais je pense qu'il faut quand même rester vigilant sur est-ce que c'est vraiment un besoin du gouvernement d'accéder à ces données.
Ouais, je toi tu penses que c'est pas indispensable en fait, et qu'il pourrait avoir un impact tout aussi important sans avoir accès à ces données-là, ou un impact suffisant sans avoir accès à ces données-là, en gros.
En fait, le truc, c'est est-ce que le gouvernement a accès à ces données, et qu'est-ce qu'il va en faire, en fait? Est-ce qu'il va changer sa politique en se basant sur ces données?
Par exemple, tu vois, ça permet de te dire, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas? Ou est-ce qu'il faut qu'on durcisse les mesures pour faire en sorte que les gens respectent ces consignes-là? Ou est-ce qu'on peut se dire, globalement, les gens respectent suffisamment ces consignes pour que ce soit efficace, et donc on n'a pas besoin de durcir? Par exemple, tu vois, ne serait-ce que ça.
Ouais, je sais pas. je suis toujours un peu réticent à toutes ces questions de vie privée. Mais d'ailleurs, je sais pas si t'as vu que le MIT aux États-Unis ont sorti une application qui permet de traquer tes mouvements. Tout ça reste sur ton téléphone. Et ensuite, donc c'est des instituts publics qui, si par exemple tu vas à l'hôpital et que tu es testé positif au coronavirus, l'hôpital peut te demander est-ce que tu veux partager tes où est-ce que tu as été ces derniers jours, et ces données sont bien sûr anonymisées et partagées, mais en ligne, et donc du coup tous les autres utilisateurs qui utilisent cette application peuvent voir est-ce qu'ils ont croisé ton chemin. Mm-hmm. Et tu vois, je trouve que c'est un bon exemple d'application utile qui de même traque tes données sans pour autant que le gouvernement ait accès à où est-ce que tu as été, est-ce que tu es resté chez toi ou pas, tu vois.
Ouais, j'ai vu que tu avais partagé ça, et d'ailleurs je l'ai installé. Donc je crois que je suis pas sorti de la maison depuis que j'ai installé, donc ça sert pas à grand chose. Mais pour l'instant, on va dire. Mais ouais, c'est une approche différente en fait, parce que là pour le coup c'est toi qui collecte tes propres data toi-même, et à un moment donné tu peux décider de les partager de façon anonymisée auprès de, alors pas directement les autorités, mais on va dire les autorités sanitaires, on va dire.
Exactement. Et je trouve que c'est une approche qui a beaucoup plus de sens, parce que ça responsabilise le citoyen, et puis t'es en contrôle de ce que tu fais en fait, et tu vois l'intérêt de partager, parce que si tu enfin, tu comprends en fait. En utilisant cette application, tu comprends l'intérêt de partager ces informations parce que potentiellement, si quelqu'un, si quelqu'un de malade l'avait fait, et ben tu aurais aussi une information supplémentaire sur toi, enfin sur ton passé et tout. Donc je trouve que ouais. c'est la bonne façon d'implémenter d'utiliser la technologie pour aider à contrecarrer cette épidémie. Je trouve que
okay.
le gouvernement donc, ce serait... a accès à tout déplacement des citoyens pour savoir est-ce que c'est son lockdown est effectif ou pas. Je trouve que c'est trop. Utile, oui, mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que le gouvernement a besoin de ça? Je suis pas vraiment sûr.
Ok, bon, bah écoute, on va en parler plus en détail, en particulier quand on va parler de l'article de Yuval Noah Harari sur ces questions-là. Mais là, c'était vraiment, on a commencé soft, on va dire, comme je le disais tout à l'heure, on a parlé quand même de cas qui étaient assez peu intrusif. Alors on va parler de la Chine dans une minute, mais pour parler de ce qui s'est passé à Taïwan, qui n'est pas la Chine, ça dépend à qui tu demandes. Pour regarder ce qui s'est passé à Taïwan, et je crois que c'est des choses qui sont aussi passées en Corée, mais Taïwan c'était quand même un des exemples les plus frappants. Là pour le coup, on est passé à l'autre extrême puisque ils ont créé un concept de ce qu'ils appellent une barrière électronique du coup ton téléphone en fait est géolocalisé en permanence, donc ça se fait encore toutes ces choses là en fait ça se passe sans application, c'est les opérateurs télécoms en fait qui ont l'information, qui savent quelle antenne radio vous bornez en fait, et donc qui savent approximer l'endroit où vous vous trouvez et donc du coup avec l'intermédiaire de
je pense que le mot c'est estimé.
J'ai dit quoi?
Approximer.
Estimer, ok. Estimer là où vous vous trouvez. Et donc du coup, l'État taïwanais en fait a réussi à avoir un impact très 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 limité puisque Taïwan c'est quand même assez dense, et c'est très proche de la Chine, mais ils n'ont eu en tout et pour tout que 108 cas reportés du coronavirus, là où en Chine on en a eu 80 000, et puis on voit ce qui est en train de se passer dans d'autres pays. Donc clairement on peut dire que assez rapidement ils ont réussi à comprendre le risque et juguler le problème très 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 rapidement. Le seul truc c'est que comme je le dis en gros les opérateurs mobiles ont été mis à contribution et donc on a géolocalisé en permanence par l'intermédiaire de leur téléphone portable sans leur accord d'ailleurs hein, parce que c'est clairement quelque chose qui a été décidé sans demander au préalable l'accord des gens qui étaient testés positifs. Et on leur a imposé de rester chez eux et à un point d'ailleurs où en fait les gens étaient appelés deux fois par jour pour s'assurer qu'ils étaient bien à proximité de leur téléphone, parce qu'on pourrait dire le téléphone est géolocalisé, on s'assure que vous restez dans la zone dans laquelle on vous a demandé de rester, sauf que si vous sortez sans votre téléphone ça marche. Et donc le truc c'est que là ils appelaient les gens donc deux fois par jour au hasard pour s'assurer que les gens étaient bien à proximité de leur téléphone Ouais, juste pour finir, au passage, les gens qui respectent pas la quarantaine, donc qui ne respectent pas l'assignation à résidence électronique, risquent jusqu'à, donc c'est $1 million taïwanais, ça fait 32 000 dollars américains. Donc, je sais pas, un peu moins de 30 000 euros d'amende. Donc voilà, donc ça c'est un bon exemple de ce qu'on avait à l'autre extrême, où pour le coup, c'est presque les mêmes moyens techniques, mais qui sont utilisés de façon beaucoup plus coercitive, en fait.
Ouais, mais là, pour le coup, je trouve ça justifié.
Ok, va falloir que tu t'expliques.
Non, mais tu vois, enfin, c'est n'importe quoi. Parce que c'est bien la preuve que... Enfin, tu vois, le fait qu'ils aient besoin d'appeler, c'est bien la preuve que leur système de base de dire on va traquer et tout, on va estimer votre position... et les gens laissent leur téléphone à la maison, donc du coup tu vois bien que c'est pas que l'être humain va toujours essayer de trouver une échappatoire à partir du moment où tu le traques. Donc je trouve que la bonne approche c'est plutôt de responsabiliser les gens et de leur expliquer pourquoi et de leur montrer l'intérêt en fait, plutôt que de les traquer et de les appeler deux fois par jour et puis d'envoyer la police dans les 15 minutes où ils sortent de chez eux, tu vois. Puis surtout 32 000 euros, enfin 30 000 dollars, c'est...
Bah ouais, alors après là c'est là où tu vois les différences de donc enfin quand tu disais que tu trouves c'est logique, tu plaisantais en fait, tu trouves
oui, bien
pas ça
sûr,
logique.
ouais,
OK, d'accord. Mais ouais, mais c'est là où tu te dis que finalement tu as des différences culturelles en fait qui s'expriment sous le spectre de cette pandémie quoi, parce que c'est vrai que bah a priori les gens se plaignent, mais globalement c'est quelque chose qui a été mis en place sans qu'il y ait plus de réactions politiques fortes par exemple, ou de réactions de la société civile forte quoi. Et c'est vrai que en France on n'imaginerait pas quelque chose comme ça
Ah, clairement
passer
pas.
quoi. Mais malgré tout ça a été un moyen très très efficace pour eux pour juguler le problème. Et tu t'as presque envie de te dire que finalement c'est quelque chose qui est presque plus comment dire, qui est presque plus temporaire en fait que le système dont on parlait tout à l'heure qui a été utilisé en Italie et en France et au Royaume-Uni, où là pour le coup tu peux imaginer que on va donner accès de façon assez régulière à ce genre d'informations statistiques de déplacement des gens. Là le système de comment dire de barrières électroniques, je pense que t'as pas beaucoup de contexte où un truc comme ça va être mis en place une fois que la pandémie sera contrôlée. Alors, on sait pas encore quand est-ce que ça se passera, mais une fois que cette pandémie et ce virus sera contrôlé, il y aura pas forcément d'autres applications de ce genre de choses, quoi.
Ouais.
Donc tu vois, alors ok, c'est très très invasif pour les gens qui sont directement ciblés, mais bon, ça a été, c'est un bon exemple en fait de la fin justifie les moyens, quoi. Et c'est vrai que là, pour le coup, mais de façon temporaire et circonscrite, en fait.
Ouais.
En fait,
Après,
c'est pas
c'est
la fin justifie les moyens, c'est au grand mot les grands remèdes, en fait. Et du coup, donc tu mets en place ces mesures exceptionnelles, mais encore une fois que l'épidémie sera terminée, c'est des choses qui disparaîtront. Mais non, t'es pas convaincu?
Bah, est-ce qu'elles disparaîtront? Espérons-le. Tu vois, on n'est pas vraiment. T'es jamais vraiment sûr à. Tu sais, à partir du moment où le gouvernement te montre qu'il est capable de faire ça, est-ce que tu peux vraiment penser qu'il fait pas moins, tu vois?
Ouais, c'est encore une fois, ça va être un truc dont on va parler dans l'article du Financial Times sur de Harari, mais c'est vrai que comme tu dis, finalement, c'est des mesures exceptionnelles que tu prends, mais ça a aussi un impact sur la façon dont la société appréhende en fait ce genre de mesures, et peut-être que quelque chose qui était inacceptable à un moment donné devient acceptable temporairement et devient potentiellement un peu plus acceptable en temps normal quand les choses reviennent dans l'ordre. Donc finalement, ouais, je te donne peut-être un petit peu raison, et c'est vrai que même si c'est contenu, entre guillemets, c'est restreint à un certain nombre de personnes, puisque encore une fois, 108 cas, c'est tout petit, même à l'échelle d'un pays comme Taïwan qui est assez petit. Mais peut-être que ça aura un impact sur la façon dont on regarde la vie privée dans les années à venir.
Ouais.
Ok, donc ça c'était l'exemple numéro 2. Au passage, Hong Kong et Singapour ont eu des approches un tout petit peu différentes, mais c'est un peu la même idée. À Hong Kong, on te donnait un espèce de comment dire, de bracelet, un peu comme les gens qui sont assignés à résidence là, les bracelets électroniques. Donc du coup, t'étais plus ou moins géolocalisé en permanence par l'intermédiaire de ce truc-là. À Singapour, qui est pas forcément un des pays les plus démocratiques, même si c'est une société qui fonctionne bien et qui est bien organisée, pour le coup, on t'envoyait un SMS avec un lien à cliquer qui te géolocalisait en fait dans un site web pour s'assurer que tu étais bien dans un endroit. Donc on t'envoyait des SMS à plusieurs reprises dans la journée pour s'assurer que tu étais bien à l'endroit où tu es censé être et que tu observais bien la quarantaine. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qui s'est passé en Asie, en Asie au sens large. Maintenant, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé en Chine. Donc je sais pas si t'as suivi un petit peu. En Chine, on va dire que les choses sont très très différentes puisqu'il y a une très forte intrication entre les grands acteurs de la tech et le gouvernement chinois. Et donc du coup, ce qui s'est passé en fait, c'est que Ant Financial, qui est non pardon Alipay, qui est donc le rival de Ant Financial, mais en gros c'est imaginez un peu un truc qui ressemblerait à Apple Pay en fait, sauf que au lieu d'être utilisé par 5% des geeks qui sont fans de Apple, c'est utilisé par 99% de la population. Donc c'est vraiment ce qui remplace tous les moyens, à peu près tous les moyens de paiement, on va dire, au quotidien en Chine. Et donc, à base de QR code, vous pouvez acheter, payer, faire ce que vous voulez, transférer de l'argent. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, on va dire, très, très grand public et très utilisé. Et donc, du coup, le gouvernement chinois a utilisé le relais de Alipay, de Alipay, pour, en gros, aussi, au-delà de fournir le QR code de votre compte financier, a aussi le QR code qui est associé à votre état de santé. Et donc, du coup, les gens, en fonction de... alors, de données qui étaient collectées par le gouvernement, donc je sais pas exactement comment est-ce qu'ils ont fait les choses, mais en gros, la Chine a tout simplement eu un espèce de registre géant des gens qui sont contaminés, des gens avec lesquels ils vivent, donc qui sont potentiellement contaminés, des gens qui doivent être en quarantaine, etc., etc., etc. Et donc, du coup, c'était quelque chose qui était directement disponible dans votre application Alipay. Et partout où vous allez, à chaque fois que vous vouliez entrer dans un... Et c'est encore, à mon avis, encore en action là où on parle, ou en tout cas dans beaucoup de régions, peut-être pas dans toutes, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui est toujours d'actualité. Vous présentez votre QR code et du coup, la couleur de votre QR code diffère aussi en fonction de votre potentiel état de santé. Donc, il y a trois couleurs. Le rouge, a priori, si vous montrez un QR code rouge, vous allez avoir des problèmes parce que vous ne devez pas vous balader dans la rue, vous devez être en quarantaine. Le orange, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, mais je crois que c'est quarantaine modérée.
C'est 7 jours.
C'est ça. Donc ça veut dire que a priori c'est finalement la même chose. Hein. Si vous êtes orange, ça veut dire que vous n'avez pas le droit de sortir. Donc vous n'avez rien à faire dans le commerce dans lequel vous êtes en train d'essayer de rentrer. Et par contre le vert, ça veut dire que a priori vous n'êtes pas à risque. Donc du coup vous pouvez vous balader tranquillement. Donc voilà quoi. Là pour le coup et peut-être que c'est finalement c'est enfin comment dire. Les choses sont peut-être pas aussi binaires, mais là on est clairement dans une situation assez dystopienne où bah clairement les magasins, les commerces font office de d'autorité en fait et remplacent le rôle des autorités et se chargent de repérer les gens qui sont en infraction du point de vue de leur quarantaine. Ouais. Donc là Stéphane, qu'est-ce que t'en penses pour contre? On ne se prononce pas.
Bah écoute. Non, mais en fait, c'est vrai que c'est probablement quelque chose de culturel parce que tu sais, la Chine, ils ont déjà commencé à traquer tout le monde. Quand tu traverses la route, enfin, quand le passage piéton est au rouge, tu reçois directement une amende sur WeChat. Donc, à partir de là, ben, oui, est-ce que...
Ou Alipay, d'ailleurs. C'est Ant Financial et Alipay sont justement, pareil, de la même façon, utilisés comme relais pour mettre en place cette histoire de social credit score. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est... finalement, c'est presque logique pour eux d'avoir tiré avantage de ces applications-là pour mettre en place ce contrôle sanitaire de la population, puisqu'ils le font déjà avec le système du credit score social.
Effectivement, parce que à partir du moment où tu reçois une amende directement sur ton téléphone quand tu traverses la rue, alors qu'il n'y a pas de police autour, et juste parce qu'il y a une caméra, bah, tu trouves pas étonnant le fait de pas pouvoir aller faire tes courses parce que tu as un QR code qui est orange ou rouge.
Ouais.
Mais c'est pas des choses qu'on attend de nous aux États-Unis, c'est pas des choses qu'on attend de nous en France, donc forcément, ce genre de, enfin, l'idée même qu'on puisse te bloquer ton système de paiement parce que tu es malade, enfin, c'est quelque chose d'inimaginable dans beaucoup d'autres pays que la Chine, en fait.
Ouais. Ouais. Oui, enfin, ou en tout cas de façon aussi évidente, on va dire. Après, on sait bien comment ça se passe. Enfin, c'est marrant, on a tendance à l'oublier parce que c'était beaucoup moins visible en fait. Mais par exemple, jusqu'à il y a quelques années, les gens qui étaient positifs au VIH ne pouvaient pas entrer sur le sol des États-Unis, par exemple. Mmh. Et tu pourrais dire, bah, c'est finalement une restriction sanitaire qui est presque comparable à ce dont on parle aujourd'hui. Tu as les autorités qui t'empêchent de faire quelque chose au nom de ton état de santé, par exemple. Alors c'est globalement assez niche, ça concerne un certain nombre de personnes, un nombre restreint de personnes plutôt. C'est quelque chose qui était aussi bon, on va dire pas forcément aussi intransigeant que ça pourrait l'être, parce qu'en pratique, je crois que c'était en gros si on trouvait des antirétroviraux dans tes bagages, on pouvait en déduire que tu étais porteur du virus du SIDA, mais il y a pas forcément, c'est pas écrit sur ton visage, donc c'était pas forcément facile pour les autorités américaines à l'arrivée sur le sol américain de vérifier ce genre de choses. Mais tu vois, enfin, et c'est juste un exemple qui me vient en tête, mais on a quand même ce genre de ce genre de choses, c'est juste que ça se passe à beaucoup plus petite échelle, en fait. Là, c'est vraiment tous les magasins vérifient votre QR code, tous les à l'entrée de chaque lieu public en Chine, il y a des capteurs de température qui s'assurent que votre température est bien au-dessous d'une température normale, etc., etc. Et c'est vrai que bah oui, on imagine mal ce genre de choses. On voit déjà comment ça se passe quand on vous demande d'ouvrir un sac, par exemple, pour entrer dans un grand magasin. Et c'est vrai que c'est on n'est pas encore complètement prêt, à mon avis, à avoir des gens qui vérifient votre température, votre statut sanitaire pour vous laisser rentrer dans un lieu public. C'est clair que ça se passera pas.
Ouais, ouais. Mais et là, pour le coup, je pense que c'est nécessaire, tu vois. Je pense que c'est pas une intrusion dans la vie privée que de te demander de vérifier ta température s'il y a rien derrière, tu vois. S'il n'y a pas de tracking.
Ouais.
Mais tu vois, enfin, c'est un truc qui s'est beaucoup fait en Corée, à Corée du Sud, où quand tu arrivais au travail et quand tu repartais, on vérifiait la température. Et c'est ce qui permet vraiment de t'informer de est-ce que tout va bien ou est-ce que tu n'as pas tout seul un problème. Parce qu'il y a, plus de 80% des gens qui ont le coronavirus et qui ont des symptômes. Et le premier symptôme, c'est la fièvre. Donc du coup, ça permet de vraiment pouvoir informer les gens pour qu'ils puissent s'isoler au cas où.
Mais du coup, c'est comment dire, c'est laissé au bon vouloir des gens à qui on a donné l'information en fait. Et on va en parler dans deux minutes, mais c'est ça en fait la grosse différence. C'est tu peux avoir accès à l'information en soi, ta température, comme tu viens de le dire, c'est quelque chose, c'est un indicateur qui est plus que valide, quoi. Et la quarantaine, bah c'est imposer une quarantaine, c'est quelque chose de comment dire, la meilleure solution au problème en fait. Donc les solutions en tant que telles sont tout à fait valables, tu vois. C'est pas comme si on utilisait des remèdes approximatifs. Le seul problème, c'est que bah la façon dont on les impose, en fait, c'est ça qui fait la différence, quoi.
Mais exactement, parce que en Chine, si ta température est trop élevée, on te met un QR orange ou rouge. En Corée, on te donne juste ta température et tu prends l'information et c'est à toi de t'es responsable de ta santé et t'es responsable de la santé des autres aussi. Donc si en sortant du boulot, on te dit bah voilà, ta température c'est 37 je sais pas moi 37,9, ben tu restes chez toi le lendemain, mais tu peux quand même aller faire tes courses. Et le gouvernement n'a pas, enfin, personne ne va transmettre cette information, qui que ce soit, tu l'as pour toi. Donc, c'est une énorme différence entre la Chine.
D'ailleurs, la Chine, en fait, juste au passage, je me rends compte que finalement, c'était en gros, Alipay a créé le système, a utilisé les données du gouvernement, et après, c'était aux gouvernements locaux, en fait, de mettre en place les checkpoints et de vérifier à l'entrée des magasins des routes, d'ailleurs, ou des lieux de transport public, d'avoir des gens qui vérifient et qui contrôlent. Mais donc voilà, donc c'était pas, enfin c'est une façon assez intéressante de voir que c'est un mix de centralisation et de décentralisation et de collaboration entre le secteur public et le secteur privé. Donc ouais, voilà, je voulais juste préciser ça, c'est pas forcément aussi binaire qu'on pourrait le penser, enfin c'est pas juste le gouvernement qui impose des choses. Donc voilà, donc là on a passé en revue trois cas différents. Et en fait, on va conclure sur le sujet en parlant de l'article donc de Yuval Noah Harari. Donc, si vous le connaissez pas, c'est celui qui a écrit Sapiens et Homo Deus. Si vous avez suivi un peu l'actualité, même l'actualité française, je pense que c'est un article qui a parlé, qui a été beaucoup repris. Donc, vous avez probablement entendu parler de l'article si vous l'avez pas lu. Donc, c'est un article qu'il a publié avant-hier, je crois, dans le Financial Times. Qui est assez long, mais qui mérite vraiment de le lire. Donc Stéphane, qu'est-ce que t'en as pensé? Tu l'as lu en entier?
Je l'ai lu en entier et j'avais pas vraiment regardé l'auteur de cet article et je l'avais trouvé vraiment, vraiment intéressant. Puis c'était à la fin de l'article où j'ai vu le nom de l'auteur. Je me suis dit, ah oui, effectivement, ça ne m'étonne pas que l'article ait était si intéressant. Parce que c'est quand même quelqu'un
Quelqu'un qui réfléchit.
Ouais.
Il a fait beaucoup de, enfin, il a fait plusieurs TED Talks. Donc, si vous avez envie de vous intéresser à la personne, mais que vous avez pas envie de lire le Sapiens, qui est quand même un super bon bouquin, même si c'est un pavé, vous pouvez regarder ses TED Talks sur YouTube qui sont assez cool et dans lequel il développe quand même pas mal ses idées.
Ouais.
Donc l'article, comment est-ce que tu le décrirais ou comment est-ce que tu le résumerais?
Bah moi, ce qui m'a vraiment intéressé, ce que j'ai vraiment trouvé intéressant dans cet article, c'est qu'il parle d'abord de toute la surveillance et donc des technologies qui sont utilisées en Asie et ensuite il tourne ça d'un point de vue politique en quelles conséquences ça peut avoir sur la société après coronavirus et c'est assez intéressant parce que même si aujourd'hui on est vraiment en plein dedans, il y a plein de décisions qui sont prises actuellement politiques, même au niveau santé, au niveau des compagnies, qui vont avoir un impact sur l'après coronavirus. Et je trouve que c'est intéressant d'y réfléchir maintenant, puisque c'est pas quelque chose qu'on a tendance à faire maintenant quand on est en plein dedans. Et je pense que c'est le seul article que j'ai lu vraiment dernièrement qui regarde un peu tout ce qui se passe aujourd'hui, mais d'un point de vue
l'après.
Ouais,
et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exemples. Moi, j'ai entendu des gens qui parlent justement du Patriot Act un petit peu là, parce que c'est vrai que ça fait partie des crises. Alors il y a le stimulus, enfin c'est plus un stimulus d'ailleurs, mais en gros le déblocage des 2000 milliards de dollars pour relancer l'activité. Donc là, on a aussi beaucoup entendu parler de bail-out des banques pendant la crise de 2008 et des mauvais souvenirs, mais enfin c'est quand même des situations qui assez rapidement parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'événements qui se sont passés au cours des trois dernières décennies, on va dire, donc pas si longtemps que ça, enfin suffisamment proche pour qu'on s'en rappelle encore, qui font tout de suite réagir les gens. Et donc typiquement la prise de loi liberticide, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, attendez, on a vu ce qui s'était passé avec le Patriot Act à la suite des attentats du 11 septembre, donc avant de prendre ce genre de décision, on va quand même faire attention. » Donc et c'est peut-être que justement on a la mémoire suffisamment longue, on va dire, pour pouvoir avoir ce point de référence et se dire que quand on prend des décisions assez rapidement, c'est compliqué de les défaire. Et en France, on parle de l'état d'urgence et de la solidification dans le droit français de certaines mesures de l'état d'urgence. Donc je pense que finalement on a entre guillemets la chance ou la malchance d'avoir eu des événements suffisamment traumatisants récemment pour pouvoir se dire bon, c'est peut-être pas forcément utile de prendre des décisions qui vont nous impacter sur le long terme trop vite.
Mais on peut pas vraiment le savoir maintenant parce que il y a des décisions qui doivent être prises parce que c'est des décisions d'urgence. Mais la question, c'est est-ce que ces décisions qui sont prises vont avoir un impact, vont être gardées finalement sur du très long terme, sur du moyen terme ou sur du court terme. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on peut pas vraiment savoir maintenant. Et c'est vraiment des questions qui vont pouvoir être répondues par les citoyens. En fait, c'est les citoyens qui vont vraiment décider de est-ce que des mesures qui donnent plus de pouvoir au gouvernement vont être gardées ou pas. Parce que si après déjà maintenant, en fait, si dès maintenant les gens commencent à s'y opposer, c'est probablement pas des mesures qui vont pouvoir rester sur du très long terme. Maintenant, si personne ne dit rien et si ça devient vraiment normal, on peut vraiment se poser la question de est-ce que ces grignotages de pouvoir de la part des gouvernements sur leurs citoyens vont vraiment rester sur du long terme. Et c'est l'exemple de la Chine par exemple, hein. Est-ce que cette idée du QR code vert, orange et rouge, ça a l'air de marcher, donc pourquoi pas le garder en fait, pourquoi pas le réitérer quand il y aura la prochaine grippe, enfin pourquoi s'arrêter là en fait?
Ouais, c'est ça. Tu t'engages dans une direction qui est intéressante. Alors, juste, on va développer l'article, mais ce que tu dis, en fait, ça me fait aussi penser à une approche un peu différente qui a été prise par Ben Thompson. Je sais pas si tu connais, qui est l'auteur d'un blog qui s'appelle Strategy. C'est un nom qui est assez pas terrible, mais le blog est super intéressant et en fait il prend c'est un peu comment dire, c'est quelqu'un qui développe des idées assez intéressantes en général et il écrit des articles qui sont souvent repris par des blogs tech ou même des fois des publications plus comment dire plus traditionnel. Et donc lui, en fait, d'après ce que j'ai compris, alors j'ai pas lu l'article en question, mais j'ai vu son article cité et son point de vue cité. Je crois qu'il est à Taïwan justement en ce moment, et il explique qu'en fait, oui, on peut voir ça comme une restriction. C'est un contrariant en fait. Non, je sais pas comment est-ce qu'on dit en français. Pas un objecteur de pensée, mais en gros, c'est quelqu'un qui développe des idées qui sont un petit peu qui vont un petit peu à contre-courant. Mais donc du coup il explique que à Taïwan, ok, c'est vrai que les gens qui ont été mis en quarantaine ont le fameux dispositif dont on parlait tout à l'heure, mais malgré tout, ça veut dire que les quelques personnes qui sont en quarantaine permettent à l'essentiel de la population qui n'est pas à risque de vivre une vie globalement assez normale et de pouvoir continuer à sortir, de pouvoir continuer à consommer, parce que finalement, c'est vrai que la vie c'est pas consommer, mais là quand tout s'arrête, ça fait quand même beaucoup de mal à l'économie. Et peuvent continuer à vivre entre guillemets normalement. Et donc il explique qu'en fait, priver un certain nombre de personnes, et je vais avoir ta réaction tout de suite après Stéphane, priver un certain nombre de personnes de leur liberté, ça permet à la majorité d'avoir globalement, et en plus c'est temporaire, hein, on est bien d'accord, il s'agit pas d'enfermer les gens en quarantaine ad vitam aeternam, mais donc du coup ça permet au reste de la population d'avoir un mode de vie globalement à peu près normal. Et donc lui il disait finalement c'est ça, c'est la liberté. Les Américains disent qu'ils veulent conserver leur liberté, donc du coup, sont pas prêts à avoir des mesures qui sont trop entre guillemets liberticides. Mais la conséquence, c'est que tout le monde est enfermé, quoi. Stéphane, ouais. Réaction.
Donc déjà, je pense que il y a. Je pense que c'est possible d'arriver au même résultat sans impliquer la police dans tout ça. Tu vois, je pense qu'il en testant massivement la population et en leur disant que oui, vous avez le virus et qu'on a besoin que vous restez chez vous, je pense que les gens, avec cette information, ils peuvent rester chez eux d'eux-mêmes et qu'on peut arriver au même résultat. Maintenant, pourquoi pas dans cette situation d'urgence dire que on sait pas vraiment comment gérer le problème, mais on pense que ça c'est une bonne solution et pourquoi pas le faire. Mais je pense que le public devrait être interrogé sur, tu vois, si le gouvernement taïwanais est OK pour impliquer la police dans le maintien de la population qui a le coronavirus chez eux, donc en quarantaine, je pense qu'à un moment, peut-être après que tout ça soit terminé, le public devrait pouvoir s'exprimer sur est-ce que ça a été bien géré ou pas, tu vois.
Ouais.
Et parce que, on vit dans des démocraties et on élit des gens pour gérer le pays, mais dans ces situations qui sont quand même, tu peux pas vraiment prédire que ce genre de choses arrive dans 2 ans ou 3 ans, et donc tu peux, au moment de l'élection, je pense que tu peux pas vraiment t'imaginer que Emmanuel Macron va devoir gérer cette situation de crise. Et donc c'est normal de dire que dans une situation de crise, le gouvernement comme en temps de guerre peut se permettre de grignoter un peu de nos libertés individuelles, de nos libertés de groupe, mais il faut pouvoir, je pense, s'exprimer dessus et je sais pas, après tu vois les Taïwanais, c'est une démocratie, donc s'ils sont peut-être qu'ils trouvent que c'est une bonne idée, et peut-être que finalement s'ils trouvent que c'est une bonne idée, qu'est-ce que mon avis importe peu. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est cette période où on ne sait pas vraiment est-ce que les Taïwanais sont OK ou pas, tu vois.
Ouais. Ouais. Je me joue un peu, tu l'avais compris, hein, je fais un peu l'avocat du diable. Mais c'est quand même intéressant d'avoir une perspective différente sur les choses, quoi. Parce qu'on peut, on peut assez facilement se laisser aller en disant la liberté à tout prix, chacun a le droit de disposer de ses données, et la vie privée doit être protégée à n'importe quel prix. Et en pratique, c'est quand même souvent le consensus vers lequel, personnellement, j'ai tendance à tomber. Donc, c'est pas un consensus, d'ailleurs, c'est une opinion. Mais c'est vrai que c'est quand même intéressant, de se dire que, de temps en temps, il y a quand même des cas extrêmes. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire de protéger la vie privée à tout prix quand on est dans une situation où on doit, faire face au développement de ce virus. Et donc du coup, pour en revenir à l'article de Harari, En fait, ce qu'il explique, c'est que, c'est un peu ce que tu sous-tends en fait. Tu utilises ça comme argument à chaque fois depuis tout à l'heure. Donc, on va le dire. Finalement, ce qui compte, c'est donner accès à l'information et estimer que faire en sorte que les concitoyens soient suffisamment éduqués, mais c'est même pas forcément ça. Mais en gros, soient suffisamment aptes à prendre les bonnes décisions pour eux-mêmes et pour les autres. En ayant accès à l'information. Et donc il prend un exemple super simple et il dit, en gros il parle du savon. Donc je sais pas si t'as, j'ai entendu parler d'ailleurs de ça dans je crois que c'était une revue de presse sur France Inter. Ouais, du savon. Ouais, alors le savon, ouais, j'ai entendu parler. Ouais, mais non, le fait que en fait, ça va faire bizarre quand je vais dire ça, mais en fait utiliser du savon pour se laver les mains parce que ça permet de en gros de se nettoyer les mains. Et ben c'est pas forcément quelque chose qu'on prend pour acquis aujourd'hui, mais ça a pas forcément toujours été le cas. Et à tel point que au 19e siècle, donc c'était il y a longtemps, mais c'était il y a pas si longtemps que ça. Finalement, c'est qu'au 19e siècle en fait que les scientifiques se sont rendus compte que se laver les mains avec du savon, ça pouvait être utile pour en gros se protéger des bactéries et avoir une bonne hygiène. Et à tel point que les docteurs se sont mis entre deux opérations à se laver les mains par exemple, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Et ça pouvait forcément poser quelques problèmes, les chirurgiens en particulier, on peut imaginer. Et donc ouais, j'avais entendu quelque chose au sujet des obstétriciens en fait qui accouchaient et qui se lavaient pas les mains entre deux accouchements. Donc on imagine assez rapidement les dégâts que ça peut causer. Mais typiquement, pourquoi est-ce que je vous parle du savon? Pour en revenir sur l'exemple du savon, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose qui contrôle le nombre de fois où vous vous lavez les mains par jour, en fait. Et on se rend pas compte à quel point ça sauve des vies, en fait, en agrégation, de façon statistique. Il y a des millions et des millions de vies qui sont sauvées tous les ans parce que les gens se lavent les mains. Les gens qui travaillent, par exemple, dans la restauration, c'est un truc qui fait marrer quand on arrive aux États-Unis, mais quand on va dans les toilettes d'un restaurant, en fait, il y a un signe qui met les gens qui les employés du restaurant doivent se laver les mains avec du savon. Mais c'est vrai qu'au final, c'est quelque chose qui est très important, qu'on a globalement intégré. Donc après, si on le fait pas, des fois, c'est pas forcément une question de choix personnel, mais on peut dire que c'est de la feignantise peut-être. Mais il y a pas grand monde qui va vous dire ouais, le savon ça sert à rien quoi. Enfin, on sait bien que quand on a les mains sales, se laver les mains avec du savon, c'est partir, se donner un peu plus de chance dans la vie que de pas se laver les mains avec du savon, quoi. Et donc, du coup, pour en revenir sur cette histoire de coronavirus et un peu ce que t'expliquais avec ce qui s'est passé en Corée, finalement, expliquer aux gens que, ok, vous êtes contaminés, la meilleure chose que vous pouvez faire pour protéger les autres, c'est de rester chez vous. Et ça revient un peu à expliquer que si tu te laves les mains avec du savon, globalement, c'est mieux.
Il parle aussi dans l'article d'un problème de confiance vis-à-vis de, parce que pour pouvoir effectuer ce... Tu utilises du savon parce que t'as confiance, en fait, dans l'information. Et l'information vient des médias, vient des politiciens. Et on voit bien qu'aujourd'hui, dans certains pays, et je pense qu'en France, c'est le cas, mais surtout aux États-Unis, il y a cette méfiance vis-à-vis des médias,
ouais, cette méfiance vis-à-vis des corps médicaux. Les fake news, ouais.
Mais rien qu'avec les vaccins, tu vois, tu te rends bien compte, ouais, que t'as quand même une partie de la population qui n'a pas confiance et qui va remettre en cause même une information qui vient du corps médical.
Et c'est vrai que tu touches un truc très important, c'est que finalement on te dit que c'est bien de te laver les mains avec du savon, mais en pratique les microbes tu les vois pas, quoi. Donc finalement si tu le fais, c'est parce que tu pars du principe qu'il y a un consensus scientifique et que oui, en effet, utiliser du savon globalement c'est une bonne chose. Et donc du coup, tu vas pas pousser le questionnement plus loin que ça. Et c'est vrai que t'as raison, dans une situation où on a alors typiquement donc le président du pays où on habite tous les deux qui a dit pendant jusqu'à il y a 3 semaines que finalement bof, c'était juste une grosse grippe et que globalement c'était pas si grave que ça, ou qui a expliqué que aujourd'hui il y avait, donc ça c'était il y a 3 semaines, aujourd'hui il y a que 15 personnes qui sont affectées, non peut-être plus que ça, mais en gros quand il s'agissait de faire débarquer le Crown Princess à San Francisco, donc le paquebot avec des gens infectés, en gros il expliquait pour l'instant on a que 15 personnes infectées, donc ce serait bien que ça reste bas, et donc j'aimerais bien que ces gens ils restent sur le bateau et qu'ils débarquent pas sur le territoire américain. On comprend assez rapidement qu'il y avait quand même une certaine dissonance en fait entre le risque et le challenge qu'on se préparait à affronter et le discours des autorités et en l'occurrence du président.
Ouais. Non mais c'est ouais.
Donc voilà. Et un autre truc peut-être qu'on peut toucher sur l'article, et puis après on passera au follow s'il y a rien à ajouter. C'est aussi finalement l'approche. En gros, il y a un paragraphe, c'est on a besoin d'un plan global. Et c'est vrai que c'est quelque chose. Alors là, pour le coup, on s'éloigne un petit peu du concept des applications, de la vie privée et tout ça. Mais c'est vrai qu'on voit clairement une gestion de la crise qui est finalement assez unilatérale. Par exemple, l'arrêt des vols entre les États-Unis et l'Europe, c'était quelque chose qui a été décidé par Trump de façon complètement unilatérale, sans même prévenir à l'avance les autorités européennes, ce qui est quand même un comble. Et que globalement, alors j'ai entendu qu'il y avait eu un G20 dans l'après-midi là, mais il y a globalement très très peu de concertation entre les différents États, et clairement on est à un niveau où c'est ce dont on a besoin, quoi. Si tu veux à la fois empêcher le développement de la pandémie et continuer à avoir une économie qui quand même fonctionne, parce que là, par exemple, en Russie, apparemment, tous les avions sont cloués au sol à partir de demain, je crois, ou quelque chose comme ça. Et on voit de plus en plus d'États qui font ça. Enfin, c'est quand même assez violent en termes d'impact sur les sociétés et sur les économies, qui sont finalement deux choses assez connectées.
Ouais. Et c'est quelque chose que j'avais pas vraiment pensé avant, mais c'est vrai que il y a beaucoup de pays qui commencent à utiliser un langage qui fait référence à la guerre. D'ailleurs, Macron dit clairement nous sommes en guerre, et c'est un peu comme si chaque pays se battait de son côté, alors que vraiment ce qu'on a besoin, c'est une alliance entre tous les pays pour gérer cette pandémie de façon coordonnée, parce que un pays comme la France peut stopper toute son économie et arrêter tous les déplacements à l'intérieur du pays de façon effective, mais si d'autres pays ne font pas ça au même moment, le virus il va continuer de vivre, et puis finalement il va continuer de se propager dès que le pays va se remettre en route. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit en Chine, hein. Même s'il y a plus de cas locaux, il y a quand même énormément de cas qui sont réimportés constamment, donc
Ouais, absolument. Et l'idée de bloquer les frontières pour empêcher un virus de rentrer, c'est quelque chose qui avait été dit assez clairement, en fait, quand justement Trump avait annoncé la fermeture des frontières, qui est finalement une solution qu'il a tendance à utiliser un peu pour tout et n'importe quoi. C'est vrai que ça paraissait un peu une vue d'esprit, en fait, de dire ça, qu'un virus ne s'arrête pas aux frontières. Mais en fait, c'est exactement ce qui se passe, quoi. On se rend compte que tu peux pas empêcher les gens, tu peux pas empêcher complètement les gens de circuler. Il y aura toujours un minimum de circulation, ou en tout cas dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et le problème, c'est que ce tout petit peu de circulation, il suffit à importer un virus d'un endroit du monde à un autre, quoi.
Ouais.
Donc voilà. Donc globalement, c'est un article, c'est un article qu'on vous recommande. Et puis bon, le sujet, désolé, hein, on n'a pas fait très très original, mais on a quand même lu 2-3 trucs, on avait envie d'en parler tous les deux et de vous faire profiter de la conversation. Donc j'espère que je sais pas si on peut appeler ça un éclairage, mais en tout cas que notre opinion vous a intéressé. Et puis on va quand même tâcher de pas faire un épisode spécial sur le coronavirus toutes les 2 semaines pour les 3 mois à venir, et de vous parler d'autres choses quand même.
Même s'il n'y a pas vraiment énormément d'actualité finalement, puisque tout est un peu stoppé, donc y compris les compagnies dans la Silicon Valley et tout. Donc, les gens continuent de bosser de la maison, mais bon, bien entendu, il n'y a pas vraiment de grosses annonces actuellement au niveau.
C'est pas un bon moment pour lancer ta nouvelle fonctionnalité de je sais pas quoi. Je pense que tout le monde s'en fiche, quoi. On est tous coincés à la maison, donc.
Ouais. À part si tu travailles chez Zoom ou Slack.
Ouais, c'est ça. Les sociétés qui travaillent dans la collaboration et la visioconférence, on le voit en poupe. Et d'ailleurs, c'est peut-être un truc dont on pourra parler la prochaine fois. Il y a un espèce de boost de toutes les sociétés de collaboration professionnelle en Chine, et beaucoup de sociétés qui faisaient soit des outils de messagerie ou des réseaux sociaux se sont dit, tiens, si on lançait un chat à la Slack ou quelque chose à la Zoom pour permettre aux gens de collaborer en travaillant de la maison. Donc voilà, peut-être ce sera peut-être un sujet pour la prochaine fois. On passe au follow.
Allez.
Moi c'est encore un follow sur le coronavirus. Toi, tu parles d'autre chose. Donc pour conclure sur le coronavirus, moi j'ai mis un article. Donc il y a beaucoup de désinformation, énormément de désinformation. J'ai reçu d'ailleurs, c'est marrant, je pensais que j'étais assez isolé, mais tu vois, même moi j'ai reçu des faux euh, des messages sur WhatsApp qui mettaient en avant un nouveau traitement qui avait été développé par Roche pour juguler les progrès du coronavirus. Donc c'est complètement faux en fait. Roche, ils ont lancé quelque chose qui est un système de test, enfin un dispositif de test, mais il y a pas encore de traitement au coronavirus. Donc tout ça pour dire que bah, c'est un sujet dont beaucoup de gens parlent. Il y a de l'information un peu de degré variable, et donc moi je vais partager avec vous quelque chose qui est à mon avis une source d'information intéressante. Donc c'est le département virologie de l'université de Washington, donc pas très loin de chez moi, qui est à Washington. C'est Washington State, c'est pas Washington DC, donc à Seattle. Et donc du coup l'université de Washington, qui est une université assez renommée, pas la meilleure, mais clairement pas non plus dans le bas du panier, qui est un département de médecine qui est assez renommé et qui était finalement assez à la pointe, parce que bah, c'est ici qu'on a eu les tout premiers cas de coronavirus en Amérique du Nord. Donc du coup, assez rapidement, ils ont commencé à beaucoup communiquer et beaucoup rechercher sur le sujet. Et donc, ils ont beaucoup de tweets et de retweets de sujets super intéressants au sujet du coronavirus. Donc à la fois sur les questions de pandémie, des questions sur les tests. Donc c'est un peu pointu, mais pas trop. Donc si le sujet vous intéresse et que vous êtes un peu comme tout le monde en ce moment et que vous lisez beaucoup d'infos sur le coronavirus et que vous comprenez l'anglais, parce que malheureusement tout est en anglais, je vous conseille de suivre ce compte parce qu'il diffuse beaucoup de contenu et ils aident bien à comprendre ce qui se passe en fait. Et par exemple, pourquoi est-ce que le taux de mortalité varie d'un pays à un autre, par exemple. Pourquoi est-ce que certains pays ont pour stratégie de tester tout le monde alors que d'autres testent uniquement les gens qui présentent des symptômes, etc., etc. Et c'est assez, enfin, en dépit du côté morbide et du fait que, clairement, la pandémie, c'est pas forcément un truc marrant. C'est quand même assez fascinant de voir que c'est quelque chose sur lequel on connaissait quasiment rien il y a encore quelques mois. Et donc du coup de voir les progrès de la médecine en temps réel, parce qu'il y a énormément de ressources qui sont investies pour essayer de comprendre et décoder ce qui se passe, c'est quand même assez fascinant de suivre ça au jour le jour. Donc voilà, l'université de Washington, le département de virologie de l'université de Washington sur Twitter, c'est mon follow. Et j'ai un deuxième follow, pardon. si vous comprenez l'anglais, NPR a lancé, donc NPR c'est la radio publique nationale américaine, a lancé un podcast qui s'appelle Coronavirus Daily, et donc leurs podcasts sont toujours de très très bonne qualité. Et donc voilà, donc là ils en ont fait un sur le sujet spécifique du coronavirus, donc forcément tous les jours il y a énormément de choses à dire. Donc ils se focalisent beaucoup sur les États-Unis, mais ils parlent aussi de ce qui se passe un petit peu ailleurs dans le monde. Donc voilà, ça dure 10-15 minutes tous les jours et c'est assez intéressant. Voilà, ça y est, j'ai fini. On parle d'autre chose.
Alors, moi, mon follow n'a rien à voir avec le coronavirus. Et puis c'est en français, donc c'est pas mal. C'est un YouTuber qui s'appelle Max Bird. Il est aussi, je sais pas si on peut appeler ça comédien, mais il a un one-man show à propos de vulgarisation scientifique. Et donc, sa chaîne YouTube est principalement autour de ça aussi. Donc, il fait de la vulgarisation. Donc, il a publié plein de vidéos, une petite cinquantaine de vidéos à propos d'idées reçues, donc à propos de tout et n'importe quoi, du genre est-ce que les jeux vidéo rendent violents, est-ce que les fourmis obéissent vraiment à la reine, quoi d'autre, la vérité sur les plantes carnivores, un peu sur tout et n'importe quoi, mais c'est toujours très intéressant. Et puis il bosse vraiment ses vidéos et il met vraiment toutes les sources dans les descriptions, donc ça permet vraiment d'apprendre, de nourrir sa curiosité et puis en même temps de continuer à explorer les sujets dont il parle. Et donc c'est vraiment quelque chose que je recommande. Il publie, je pense, deux fois par mois et donc du coup ça permet de continuer à apprendre. Et d'ailleurs, donc Max Bird France Télévisions a commencé un nouveau programme un peu pour remplacer C'est pas sorcier. Et Max Bird en est, je crois qu'ils ont trois animateurs, et Max Bird est l'un d'entre eux, donc
D'accord.
Je pense que c'est sur la plateforme numérique de France Télévisions. Donc, bah, si vous êtes en France, vous pouvez regarder. Nous, on n'a pas vraiment accès à ça, mais.
Faut utiliser un VPN.
Ouais. Et, mais du coup, ouais, enfin, c'est, pour le coup, bah, si je pense, enfin, s'il reprend cette émission, enfin, le concept de l'émission pour France Télévisions, c'est quand même quelqu'un qui a ses, je pense, ses connaissances un peu validées et sa façon de travailler aussi. Donc, ouais, je recommande vraiment. Donc, cherchez juste Max Bird, donc M-A-X espace B-I-R-D sur YouTube, et puis je pense que vous allez le trouver.
Ok, bah, de toute façon, il y aura un lien dans les notes de l'émission. Cool. Bon, bah, écoute, sur ces notes, on va se quitter. On va vous souhaiter bon courage si vous êtes confiné. Et puis, bah, écoute, Stéphane, on se dit à dans 2 semaines, alors.
À dans 2 semaines. Ciao.
En espérant que ça aille mieux d'ici là. Allez, ouais. Ciao.